peut-être pas simplement la façon de communiquer qui a changé, c'est aussi la façon de se présenter de soi-même aux autres et de parler de soi. Je veux dire que un certain nombre d'études ont été menées à ce sujet qui montrent en gros trois choses. La première, c'est qu'on est de plus en plus, à travers les réseaux sociaux et notamment Facebook, dans une société où les individus s'exposent eux-mêmes. Donc leur identité numérique est en quelque sorte intensifiée et donc il y a une forme de visibilité, de recherche de reconnaissance beaucoup plus forte de la part des individus. La deuxième chose qui change, bien entendu, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'intensité ou l'intensification des réseaux de sociabilité, c'est-à-dire que nous avons cherché à avoir de plus en plus de liens, de partager des choses avec autrui. Et puis le troisième point qu'on peut souligner rapidement, c'est aussi l'idée que par le biais des réseaux sociaux et de Facebook notamment, un certain nombre de gens, et notamment les jeunes, tournent de plus en plus en dérision un certain nombre de vidéos, d'images, de commentaires, et s'informe aussi de cette manière. Voilà, donc ça bouleverse quand même pas mal de choses dans les pratiques quotidiennes des gens.
Sur Facebook, on va chercher un autre qui nous ressemble, hein. On crée des groupes, on like des pages. Mais en quoi Facebook a-t-il pu modifier notre vision de l'autre, de cet autre, notamment en effaçant des codes sociaux ?
Alors, c'est très variable selon les individus, parce qu'il faut quand même rappeler que sur Facebook, il y a à la fois des internautes qui, je dirais, s'exposent beaucoup, cherchent à avoir des liens avec le maximum d'amis, entre guillemets, et donc tentent de partager des points communs ou des passions communes avec éventuellement des inconnus. Et puis vous avez pas mal d'internautes qui ont une forme de présence sur Facebook qui est beaucoup plus régulée, qui est beaucoup plus maîtrisée, et qui joue à la fois sur l'anonymat, le pseudonyme, qui ne dévoile sans dévoiler. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la pratique du clair-obscur. Voilà, donc c'est extrêmement variable.
Comment vous expliquez que Facebook soit devenu aussi populaire alors que on connaît les limites notamment d'atteinte à la vie privée, toutes les conditions qu'il faut remplir. On a pu entendre beaucoup parler du scandale de la NSA, etc. On sait que les gens, évidemment, cherchent à garder et à protéger leur vie privée. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ?
C'est paradoxal, mais en même temps, comme nous vivons dans une société, c'est une banalité de dire, de plus en plus individualiste, où l'individu a besoin d'être reconnu en tant que personne, puisqu'il l'est de moins en moins autrement dans le cadre du travail ou de sa vie professionnelle. Voilà, c'est une façon aussi, peut-être un peu détournée, d'obtenir une légitimité en montrant qu'on est capable de faire certaines choses, qu'on a des centres d'intérêt qu'on peut partager. Donc voilà, le paradoxe n'est qu'apparent. Je crois que les deux sont liés. Alors par ailleurs, c'est vrai, il y a des problèmes de surveillance généralisée sur ces réseaux sociaux, problèmes du respect de la vie privée, mais dont les utilisateurs commencent à se méfier.
Est-ce que l'on peut prévenir un avenir à Facebook ? Est-ce que l'on peut imaginer un essoufflement ou est-ce que cette croissance sera exponentielle ?
Je suis incapable de répondre à cette question, tout simplement parce que tout ce qui est prospective ou futurologie dans le domaine se heurte ensuite à des événements inattendus, donc on n'a aucune certitude. Facebook peut très bien continuer à évoluer, étendre son réseau, tout comme peut être soumis à la concurrence d'autres innovateurs. Ce qui semble aujourd'hui de plus en plus visible, c'est que la concurrence entre les responsables des réseaux sociaux est de plus en plus vive, et donc rien n'interdit de penser que Facebook aura peut-être des difficultés dans les années à venir.